contretemps. Une émission de Canal Academy,
Priscille Lafitte
et ses invités.
Bonjour, nous allons passer l'heure qui suit avec Alain Besançon. Bonjour Monsieur Besançon.
Bonjour.
Vous êtes surtout connu pour vos travaux d'histoire et votre réflexion sur l'État soviétique et l'identité russe. Je cite vos principaux ouvrages, un traité de soviétologie publié en 1976. L'année d'après, vous avez écrit Les origines intellectuelles du léninisme et en 1980, Le présent soviétique et passé russe, entre autres ouvrages. Ces livres ont très fortement marqué le débat sur l'Union soviétique dans les années 70 et 80. Et vous avez aussi, par ailleurs, mené tout un travail de réflexion sur la psychanalyse, le langage et la religion. Je peux résumer les choses comme ça?
Si vous voulez.
Les résumés sont forcément un petit peu rapides.
Et quand même, l'esthétique également dans mon livre sur l'image interdite. Et là, ça touche à la fois à l'esthétique, à la théologie et à l'histoire de l'art.
Et permettez-moi de vous présenter trois étudiants qui sont présents dans ce studio pour vous interroger. Ils sont tous les trois également passionnés de l'histoire russe. Commençons par Baptiste Bondu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, philosophe et vous vous intéressez à la Russie.
Voilà, depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai commencé le russe il y a maintenant 15 ans.
Et vous avez quel âge aujourd'hui?
Et j'ai 24 ans, enfin 25 ans, donc j'ai commencé au début du collège, voilà. Et depuis, j'ai fait un certain nombre de voyages en Russie. Donc, n'étant pas historien, j'ai surtout un regard de passionné du peuple russe en général. Voilà.
Nous avons aussi deux étudiantes qui, elles, font une thèse chacune sur... on peut dire que c'est sur l'histoire soviétique. Vanessa Voisin.
Oui, tout à fait. Je fais une thèse sur les rapports entre les pouvoirs, les différentes autorités soviétiques et la société dans l'après-guerre, en fait, l'après-Seconde Guerre mondiale, donc de 1945 à 1964, dans une région précise de la Russie centrale.
Une région qui s'appelle comment ?
La région de Tver.
Qui est où ?
Qui est au nord-ouest.
Jusqu'à sa mort en 85-6, quelque chose comme ça.
Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi vous êtes intéressé à la Russie. Est-ce que c'est par militantisme, comme vous l'avez dit ?
Non, pas du tout. Dans ma jeunesse, si vous voulez, comme étudiant, j'avais donné dans le mensonge russe. J'avais donné dans le mensonge russe, et c'est en 56 quand j'ai compris qu'il y avait vraiment quand Khrouchtchev avait déchiré le voile, si j'ose dire, j'ai voulu voir exactement ce qu'il en était et comment est-ce qu'on pouvait se faire avoir à ce point-là. C'est à ce moment-là que j'ai appris le russe tout seul. J'étais jeune professeur, j'avais 24 ans. Je venais juste de passer l'agrégation.
L'agrégation d'histoire.
Alors j'ai appris le russe en autodidacte. Je l'ai bien su d'ailleurs à l'époque parce que j'ai passé un an en Russie en 61. Après ça, je l'ai oublié parce que je n'ai pas eu tellement l'occasion de le pratiquer. Et d'autres langues ont effacé un peu le russe.
J'ai une question parce qu'en fait, donc vous nous expliquez que votre intérêt particulier pour la Russie s'est développé à partir plutôt de la révélation sur la nature de l'URSS, si je comprends bien, 1956, le rapport Khrouchtchev, etc. Mais au départ, vos premiers travaux portaient sur le 19e siècle.
Oui, parce que quand on est historien, on veut savoir un peu comment les choses se sont passées. Et mon projet de thèse, celui que j'avais déposé, le 24 ou 25 ans, c'était l'intelligentsia russe. L'intelligentsia russe, parce que de l'époque, j'étais complètement dessalé vis-à-vis des explications marxistes et autres, sociales et autres. J'avais bien compris que c'était une crise intellectuelle qui avait, et la formation d'une secte qui avait pris le pouvoir en Russie. Et je voulais savoir quelle était la formation de cette secte. Et mon premier travail, que j'ai publié un peu tard, ça a été sur l'école en Russie, l'école et l'université en Russie, enfin le système d'enseignement russe dans le second tiers du 19e siècle, c'est-à-dire aux alentours de la fin de Nicolas Ier et d'Alexandre II. Et je l'ai publié d'ailleurs, ça s'appelle, j'oublie un peu comment ça s'appelle, mais enfin je l'ai publié. C'était pas un livre très très éclairé, mais enfin c'est un livre sérieux que j'avais fait en partie en Russie justement, puisque j'avais été envoyé en Russie dans le cadre des échanges entre la France et l'URSS et j'ai passé un an en Russie, donc en 61. J'avais donc 29 ans, voyez-vous. Et j'ai écrit ce livre, j'avais 29 ans. Et en Russie, j'ai fait une expérience de vie qui m'a servi toute mon existence. Parce que vivre un an en Russie en 1961, je crois qu'il faut plusieurs années pour le digérer, l'élaborer, le comprendre, etc. À la faveur de quelques amis que j'avais en Russie. Deux, essentiellement.
Revenons aussi à votre expérience aux États-Unis. Si vous êtes parti là-bas, c'est qu'il était plus facile de travailler sur l'URSS aux États-Unis qu'en France, par exemple ?
Ah ben, comparablement. Parce que la véritable langue dans laquelle se faisait l'histoire de la Russie, à cette époque-là, et je crois plus maintenant parce que personne ne s'intéresse plus à la Russie, mais enfin, à l'époque, c'était l'anglais. Hein, c'était en anglais qu'on faisait vraiment des choses vraies et intéressantes. Ça a commencé de la Russie, l'Amérique ne connaissait pas grand chose à la Russie avant-guerre. Et les études sur la Russie classique avaient été essentiellement faites en Allemagne et en France. C'est en France que le plus grand livre qui a jamais été écrit sur la Russie a été publié. C'est le livre d'Anatole Leroy-Beaulieu. Je ne sais pas si vous le connaissez dans la nouvelle génération, mais c'est vraiment le livre le plus ambitieux et le plus sage qu'on ait écrit jamais, en aucune langue, le plus ample, sur la Russie. Et vous aviez d'ailleurs de bonnes histoires françaises, comme celle de Rimbaud, qui est tout à fait correcte. Enfin, une histoire très positiviste, mais enfin, tout à fait correcte. Et puis, les Allemands avaient bien entendu travaillé aussi avec beaucoup de... avec toute la force de la science allemande. Les Américains ne connaissaient pas grand-chose. Et c'est après la guerre, quand ils ont compris qu'il était extrêmement important de savoir, parce que quand même, leur ignorance leur avait joué des tours dans les années 44-45, à la fin de la guerre, que là, ils ont mis les grands moyens.
Porté par une idéologie
Pas du tout par une idéologie, par tout simplement le souci de la vérité. Et en particulier, le premier grand travail, ça a été un travail d'histoire positive, mais magnifiquement conduit, par Fane Sode, professeur à Harvard, un peu plus vieux que mes maîtres, sur les archives de Smolensk. N'est-ce pas ? On avait, les Allemands avaient saisi les archives du KGB à Smolensk, et Fane Sode a fait un livre magnifique, pionnier, qui s'appelle « How USSR is ruled hein, ». Et c'est un livre magnifique. Puis après ça, vous avez eu des tas d'Américains qui ont fait, je vous ai cité Ulam, Pipes, il y en a eu d'autres, Petrit Gold, enfin il y en a eu d'autres très bons, qui ont donné, en somme, une vision tout à fait exacte de la Russie. Et qui reste encore exacte aujourd'hui, parce que, contrairement à ce qu'on raconte, l'ouverture des archives n'a fait que confirmer ce qu'ils avaient dit, mais n'a rien apporté de très nouveau.
D'accord. Nous reviendrons sur les archives à la fin de l'émission. Pour l'instant, on commence à faire connaissance avec vous, Alain.
Et j'avais deux amis. Un qui s'appelait Yuri Shibaldin, qui était un garçon extrêmement gentil, qui est mort du cœur, à la façon russe, de très bonne heure. Qui était un garçon très gentil, historien aussi, pas très... qui avait une horreur du régime, mais qui ne pouvait pas le dire et qui surtout ne le concevait pas avec clarté. C'était une chose très caractéristique de l'époque, c'est que moi je n'ai jamais rencontré un Russe qui ne pensa que le régime était une horreur, mais de là à le conceptualiser et à comprendre ce qui leur arrivait, il ne le pouvait pas. Et une autre, alors qui était une femme alors beaucoup plus distinguée, qui était la veuve d'un peintre russe de grand talent qui s'appelait Falk. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, de Falk. Et là, c'était une dame de l'aristocratie polono-ukrainienne, Angelina Vassilievna Falk. Là, je me suis installé chez elle pratiquement. C'était une dame tout à fait charmante. Et oui, je me souviens d'un tout petit épisode. Alors, tenez, qui va vous donner l'idée. C'était dans les premiers jours de notre amitié, et je disais, oui, bon, bien sûr, le régime est affreux, mais enfin, avec le rythme de développement que vous connaissez, vous allez entrer quand même, c'est en 61, hein, vous allez entrer dans une société plus riche, plus ouverte, etc. Elle m'a regardé en silence, et j'ai compris que j'avais dit une bêtise gigantesque. Mais enfin, ça n'a pas altéré notre amitié, bien que sur le coup, elle m'ait évidemment considéré comme un jeune imbécile qui n'avait rien compris. Et c'était encore le cas.
Mais comment est-ce que vous étiez rentré en contact avec ces personnes ?
Yuri Chebaldin, il était là pour me surveiller. Il était là pour me surveiller et je savais que quelle que soit l'amitié qui nous liait, le soir, il écrivait un doclade. Hein, il pouvait difficilement faire autrement.
Ceux qui ne savent pas, un rapport à doclade.
Il écrivait un rapport. Quant à Angelina Vassilievna, j'avais été mis en rapport avec elle par un historien de l'art qui s'appelait Alpatov, qui était un brave historien, semi-opposant, mais enfin discret, académique quand même, donc prudent. Et nous avons extrêmement sympathisé, cette vieille dame et le jeune imbécile donc, que j'étais, et qu'elle s'est chargée de dessaler rapidement. Ça a été fait en quelques jours.
Mais quelle fonction vous aviez officiellement en allant en Russie ?
J'étais Gosakademie Nauk. J'étais hôte de l'Académie des sciences.
Donc vous aviez une sorte d'autorisation pour faire des recherches sur l'URSS ?
Oui, j'avais, bien sûr. Mais enfin, c'est absolument bidon, parce que encore un coup, on m'apportait des dossiers vides dans une petite salle à part. Non, c'était une plaisanterie.
Et alors, quelle valeur vous donniez aux archives qu'on vous donnait, des cartons qui étaient pleins ?
Écoutez, je ne suis tombé que sur un seul document intéressant. Un seul document intéressant j'ai oublié le nom. C'est un document d'un garçon qui était devenu fou. Qui était un étudiant des années 60, justement, qui avait été arrêté, qui délirait un peu. Mais enfin, c'était un document, disons, qui avait une certaine saveur. Le reste, vous aviez les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, qui est bien faite d'ailleurs, parce que à cette époque-là, dans les années 60, les statistiques russes étaient à la fois abondantes et exactes.
Mais donc finalement, on pourrait dire qu'on avait accès aux archives, même à l'époque soviétique.
Non, c'est pas vrai. On n'avait pas accès aux archives. Aux archives intéressantes, on n'avait pas du tout accès aux archives. Ça, non.
Baptiste ?
Oui, en fait, en lien avec votre voyage en URSS et les contacts que vous avez pu garder. En fait, pour vous dire la vérité, le premier contact que j'ai eu avec vos ouvrages, c'était ce livre que vous avez préfacé d'Andrei Amalric. Oui. L'Union soviétique suivra-t-elle en 1984 ? Et donc, je voulais savoir justement, enfin, c'est cet aspect-là qui m'intéressait, c'était de savoir votre lien avec la dissidence, en fait, russe, là plutôt dans les années 70.
Écoutez, Amalric, je l'ai reçu chez moi, enfin, nous étions amis. Malheureusement, peu de temps après, il s'est tué en automobile, et c'est d'ailleurs une perte, parce que c'était un garçon vraiment brillamment intelligent et capable de conceptualiser. Ça, c'est mon première préface qui a été un peu scandaleuse. Les journaux ont dit que c'était affreux d'avoir dit ça. Mais j'étais pourtant bien disant par rapport à ce que j'ai écrit et pensé ensuite. Mais enfin, je remarquais qu'Amalric avait quand même fait une description exacte de la vie intellectuelle en URSS, c'est-à-dire d'une vie intellectuelle à l'état de conservation ou frigidaire, des positions de l'intelligentsia russe dans les années 1910, hein, avec un éventail d'opinions qui était celui des années 1910 et qui avait donc été conservé encore une fois au froid, hein, jusqu'à aujourd'hui, avec évidemment oui, c'est ça.
Et quand vous dites que vous l'avez reçu chez vous, c'est-à-dire en France ?
En France, oui.
Et donc comment se passaient en fait les liens avec ces dissidents ? Comment étaient-ils autorisés ?
Ben, il y avait de tout. Moi, j'ai connu un peu tous ces dissidents. J'ai connu Zinoviev, j'ai connu, comment il s'appelle, Daniel, j'ai connu Ginsburg, j'ai connu Sinyavski, hein. Il y en avait que j'aimais bien, il y en avait que je n'aimais pas du tout.
Et donc c'est des gens qui venaient en France ?
Non, c'est des gens qui avaient émigré en France. C'est des gens qui avaient émigré en France, qui en général sortaient de prison. Mon très cher Micha Heller, il avait fait 6 ans de camp.
Mais vous vous rendez bien compte qu'en hébergeant ces gens en France, il y avait un risque pour vous après si vous vouliez retourner en URSS.
Oh ben je n'avais aucune envie de retourner en URSS. Justement, ça c'était un grand piège. Un grand piège, le chantage au visa. Il fallait donc taire la vérité ou mentir pour avoir une chance de retourner en URSS. Et je trouvais que ça n'avait exactement aucun intérêt. Hein. Ou surtout que c'était très simple à comprendre, l'URSS. Il suffisait de connaître la grammaire et la syntaxe, hein, et tout se déduisait merveilleusement. Hein. Il n'y avait aucune difficulté à comprendre l'URSS. Hein. Mais bon, il fallait connaître les bonnes clés. Et je n'avais aucun intérêt d'y retourner.
Et donc, quand vous dites que cette préface, justement, sur ce livre d'Amalric a été assez mal reçue,
ah oui,
en fait, est-ce que vous pouvez donner quelques détails ou comment ça s'est fait, en fait, parce que donc c'est un livre qui a été préfacé en 1970.
Oui.
Donc
ça fait loin. Bah oui. C'est Furet qui m'avait donné le manuscrit en russe, d'ailleurs. Et Furet, qui était un homme qui, disons, qui tenait à maintenir des positions de gauche, mais enfin qui avait une pensée lucide par derrière, c'est lui qui l'a édité chez Fayard avec un certain courage.
Justement, vous parlez de l'accueil de cette préface, qu'ensuite ça a changé.
J'ai été mis dans la catégorie des réactionnaires, parce qu'il faut savoir que être contre le communisme et contre l'URSS en France, ça me paraît un peu étrange, mais c'était comme ça, c'est peut-être encore un peu comme ça. Même c'était mal, hein. J'ai jamais été de droite, jamais été réactionnaire au sens propre, mais j'étais très anti-soviétique et très anti-communiste, et je pense que j'avais tout à fait raison de l'être. Et évidemment, ça me mettait un peu en marge. Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que quand même, bon, je n'ai pas fait une carrière brillante, mais je n'ai pas fait une carrière non plus totalement désastreuse. Et grâce à Raymond Aron, grâce à des gens comme Furet, on se méfie un peu. Et d'ailleurs, depuis ce moment-là, je dois dire que la presse française est plutôt meilleure que la presse anglaise ou américaine ou italienne sur les questions russes. Prenez un journal comme le Monde, il est impeccable sur la Russie. Il est très très bon.
Qu'est-ce que vous appelez impeccable sur la Russie?
C'est-à-dire qu'il dit la vérité, c'est tout ce que tout ce qu'on peut dire. Enfin, c'est tout ce que je demande, hein. Tout ce que je demande. Alors donc j'ai été balayé par la Gorbimania, ceux qui espéraient dans la Perestroïka, puis après ça Eltsi et tout ça. Et moi j'étais évidemment très en arrière de la main. Et maintenant, maintenant je suis un peu retiré des voitures, mais enfin je vois que mes élèves comme François Stomme retrouvent qui ont pensé comme moi pendant toute cette période, qui est très calée, enfin qui est, ben elle remonte le courant. Enfin maintenant on commence de nouveau à pouvoir penser autrement sur Monsieur Poutine. Je ne parle pas de nos officiels, hein, ni du Quai d'Orsay, mais de la presse, par exemple. La presse en France n'est pas mauvaise, que ce soit Libération, le Figaro est moins bien. Le Figaro est respectueux. Il y a eu des articles extraordinaires dans le Figaro d'un de mes confrères, d'adoration pour Poutine, mais est un grand homme. Je ne pense pas que ce soit un très grand écrivain, je ne pense pas que ça soit très compétent. C'est un grand homme, tout simplement. C'est un grand homme à qui nous devons tous beaucoup, et jamais je n'aurai un mot contre lui, quelle que soit son évolution, quelles que soient ses positions avec lesquelles je ne suis pas très d'accord aujourd'hui. Mais il a joué un rôle fondamental, pas seulement dans ma vie, mais dans l'histoire du monde.
Est-ce que l'évolution actuelle de Solzhenitsyn vous semble représenter une sorte d'avatar du courant slavophile que vous aviez repéré, bon, évidemment, au XIXe siècle et aussi parmi les précédents du léninisme? C'est cette thématique de la chrétienté orthodoxe russe, du messianisme russe, etc.
Ben oui, bien sûr, il se range dans ce secteur de l'éventail, spirituel, si j'ose dire, de la Russie, ou intellectuel de la Russie. Il est nationaliste, il ne comprend pas que l'Ukraine puisse avoir envie de se détacher, alors que les Russes aiment tellement les Ukrainiens. Comme vous savez, l'impérialisme russe est toujours un impérialisme dans l'amour. Hein. Et alors, comme on aime tellement les Ukrainiens, on comprend pas qu'ils ont envie de se détacher. De même, les pays baltes, pour qui la Russie s'est tellement dévouée, hein, n'ayant déporté qu'à peu près un quart de la population, et ben, ils ne comprennent pas que les pays baltes avaient quelques dents contre la Russie et le pouvoir soviétique, surtout.
Et justement, comme une question un peu corollaire, vous...
Oui, l'abîme de mon ignorance. Je me suis occupé d'autres choses depuis 90. Enfin, j'ai écrit d'autres livres et je n'ai pas suivi l'actualité russe.
Justement, vous n'étiez pas curieux de voir ce qu'allait engendrer le monstre soviétique après sa chute ? Vous n'étiez pas curieux de voir ce qu'allait engendrer le monstre soviétique après sa chute en 90 ou... Vous pressentiez un petit peu ce résultat?
Écoutez, la Russie n'est pas la Pologne, ou ne fait pas partie quand même de, n'a pas connu de, elle a quand même la nature de son État, la nature de la religion, enfin un pays qui ne peut pas évoluer au rythme de la Hongrie ou de la Pologne. En plus, vous avez le nationalisme polonais et le nationalisme hongrois faisaient qu'ils étaient contre la Russie et pour l'Europe. Alors que la nature du nationalisme russe fait qu'ils sont pour la Russie et contre l'Europe. Donc ça ne pouvait pas évoluer à ce rythme-là. Et de plus, la voie prise par Poutine me paraît une voie tout à fait désastreuse par rapport aux vrais intérêts de la Russie. La Russie, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Elle devrait d'abord se repentir du communisme, ce qu'elle n'a pas fait. Les Allemands se sont repentis du nazisme, mais les Soviétiques, il n'y a personne.
Ça pèse encore sur l'histoire.
C'est fondamental. C'est fondamental. Les manuels d'histoire soviétique aujourd'hui sont des manuels qui reprennent à peu près les manuels officiels de l'époque soviétique.
Est-ce que d'ailleurs à ce propos...
Alors il y a ça. Il y a également la mobilisation de ce qu'il y a de pire dans l'orthodoxie russe pour se tourner contre une attitude de xénophobie religieuse totale. Et puis, au lieu que la Russie devrait lécher ses plaies qui sont immenses et essayer de se reconstituer dans le cadre, parce que c'est un pays un peu fichu, ça l'a tué, la révolution russe. Ça a tué la Russie. Songez que la Russie avait 170 millions d'hommes en 1917 et il n'en a plus que 145. Et que, alors que le Brésil avait 20 millions d'hommes, il est passé à 180. Donc vous voyez un peu le désastre démographique que c'est. La Russie n'est pas en état de tenir et d'exploiter tout son pays. Elle devrait donc revenir un peu, abandonner ses chimères impérialistes. Or, on continue d'exciter le peuple russe avec les idées de reconstituer le territoire de l'URSS. Ça, rien n'est plus contraire aux intérêts réels de la Russie. C'est aussi bête que quand Hitler voulait conquérir des terres à l'Est, alors que les Allemands vivaient en ville et n'ont aucun besoin de terres à l'Est. Vouloir récupérer l'Ukraine ou les pays baltes ou la Moldavie, c'est tout simplement des folies.
Et de qui parlez-vous quand vous dites « on continue d'exciter le nationalisme russe aujourd'hui »
Ben la télévision, les discours de Poutine, enfin, qui a dit que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. La chute de l'URSS, ça a été une bénédiction.
Vous avez tout à l'heure employé le mot soviétique pour parler des livres, des manuels d'histoire aujourd'hui.
Oui.
Donc pour vous, on serait encore finalement dans un état soviétique aujourd'hui ?
Non, ça c'est pas vrai. Ce n'est ni l'ancienne Russie, ni le communisme. Il n'y a plus l'idéologie communiste, elle a simplement été oubliée. Comme si tous ces millions... centaines de milliers de propagandistes, d'historiens, etc., qui faisaient du marxisme-léninisme, évanouis dans la nature, reconvertis dans le petit commerce ou dans l'enseignement de l'anti-marxisme ou de l'économie politique moderne. Enfin, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'idéologie. L'idéologie, la place de l'idéologie, c'est c'est l'orthodoxisme, comme on dit dans ce qui est un néologisme post-soviétique. On disait autrefois l'Église orthodoxe, mais on n'a jamais parlé d'orthodoxisme, comme on dit le léninisme ou le marxiste-léninisme. Ça, c'est un néologisme tout à fait effarant. Bon. Alors, donc, ce n'est pas ni l'ancienne Russie, ce n'est pas non plus la Russie communiste, c'est une formation sui generis. Je pense que c'est plutôt un retour à ce qu'il y avait de pire dans l'ancienne Russie, c'est-à-dire justement l'esprit impérial et l'esprit nationaliste. Mais sans l'essor extraordinaire de la Russie d'avant 14, qui était en train de devenir la première puissance d'Europe. Il le devenait très vite. Il le devenait très vite.
Est-ce que vous voyez aujourd'hui une forme d'opposition ou où sont passés les dissidents qui auraient pu faire évoluer?
Alors les dissidents, là-bas, l'immense majorité des dissidents étaient des jeunes juifs. Pratiquement 90% des dissidents courageux étaient des jeunes juifs. Ça, il y a le livre de Solzhenitsyn qui est critiquable, mais qui est quand même intéressant, qui montre très bien que, à partir de 1967, les juifs qui avaient quand même très activement collaboré, le monde juif qui avait très activement collaboré au cadre du système soviétique, se sont retirés. On laissait tomber le système. Et Solzhenitsyn montrait bien que la chute du régime soviétique est en grande partie due justement à ce retrait, à ce retrait des juifs. Donc ces juifs extrêmement courageux, extrêmement anti-soviétiques, etc., sont tout simplement partis.
Aux États-Unis, en Israël.
Ils sont en Israël et aux États-Unis. Donc il y en a très peu. L'anniversaire de la victoire. Eh bien, on a découvert à côté de Pétersbourg des innombrables charniers, mais on en sort de tous les côtés, où il y avait 30 000 malheureux fusillés des années 38. Alors ils ont déterré, ils ont essayé de planter ce qui est un terrain vague maintenant, sans aucune trace. Ils ont essayé de planter une croix ou enfin quelque chose comme ça. Ils sont très honorables, ces gens-là.
Vanessa.
Mais effectivement, il est assez consternant de constater que c'est une organisation civile, donc mémoriale, qui a élaboré ce qu'ils appellent les martyrologues, c'est-à-dire les livres avec le nom des victimes, et que ça n'y a nullement le pouvoir officiel.
Ah bah non, pas du tout.
Tout à fait. C'est un signe, effectivement, assez inquiétant.
Remarquez l'historiographie de la France. La terreur des années 92-94, ça avait duré que 18 mois. Mais enfin, elle avait quand même rempli d'horreur toute la France du 19e siècle jusqu'à la guerre de 70. Et après la guerre de 70, il y a eu un retour où on a commencé à défendre la terreur au nom de la défense nationale. Eh bien, les Russes font ça en grand. Les Russes font ça en grand. Si vous voulez, la Russie se couvre de monuments à la défense nationale, aux héroïques, aux soldats, à la gloire, etc. Et ça couvre tout. Ça couvre tout et maintenant Lénine est partout, bien entendu, Dzerzhinsky, Joukov évidemment, et Staline.
Oui, on l'a vu pour le 9 mai. Enfin, vu de France, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ces statues de
j'étais,
Staline.
J'étais en Géorgie en octobre dernier. Alors là, j'ai vu de ravissants monuments avec des jeunes filles qui offrent des bouquets à Staline, etc. Mais enfin, c'est d'un géorgien. Après tout, c'est leur Napoléon.
C'est vrai que vu de France, c'est absolument incroyable. Hein? Vu de France, c'est absolument incroyable de voir ça.
Oui, enfin, vous savez, moi, je suis assez vieux pour avoir vu les bas-drapeaux français en Berne à la mort de Staline.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons Priscille Lafitte.
Alain Besançon, pour vous, en 1997, la publication du livre noir du communisme a marqué un tournant supplémentaire sur l'historiographie de l'époque soviétique?
Oui et non. Non dans la mesure où tous les faits étaient connus, en tout cas en ce qui concerne la Russie. J'en ai appris beaucoup dans ce livre sur la Chine, sur le Cambodge, sur des machins comme ça, mais sur la Russie, tout le monde le savait. Le grand mérite, enfin tout le monde... Les gens qui voulaient bien savoir le savaient. Et d'ailleurs, Courtois ne prétend pas du tout avoir fait une œuvre de recherche dans ce livre. Ce qu'il a fait, et ce qui est extrêmement utile, c'est qu'il a mis sous l'accolade communisme une addition. Une addition extraordinaire. Une addition qui montre que le communisme, l'idée communiste, l'idéologie communiste et les régimes qui sortent de cette idéologie ont fait entre 85 et 100 millions de morts. Bien. Le livre a eu du succès en France. Quand j'étais en Russie, donc il y a 3 ans, et le livre était sorti en Russie, mais il avait tiré à 300 exemplaires. Encore une fois, les Russes, non. Maintenant, je crois qu'il a été retiré et qu'il marche un peu plus. Mais enfin, les Russes ne sont pas curieux du tout. Ils ne veulent pas entendre. Il a eu du succès en Pologne, évidemment. Il a eu un certain succès aux États-Unis, je crois. Et il a eu du succès en France, et je me félicite, parce que cette édition devait être faite.
Vous souscrivez à tout ce qui a été écrit?
Écoutez, je l'ai lu, ce livre. C'est un livre...
Mais plutôt, en fait, justement, sur l'accolade communisme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, par exemple, une voix russe particulière liée au régime communiste qui permettrait de mieux expliquer, par exemple, ce qui a pu se passer, ou est-ce que vraiment... Il y avait une...
Ce qui se passe est assez simple, si vous voulez. Quand le pouvoir communiste s'installe, il a besoin de beaucoup de pouvoir parce que l'utopie ne s'incarne pas, n'est-ce pas? On croit que quand on a renversé le capitalisme, le socialisme va advenir. Il n'advient pas. Il n'y a pas, ce qu'on arrive à faire, c'est un non-capitalisme, hein, c'est tout. Alors, donc, il faut transformer le pays en une école, forcer les gens à entrer dans un nouveau cadre, les rééduquer. Pour cela, il faut du pouvoir, encore du pouvoir et toujours du pouvoir. Où va-t-on chercher? Ben, on va le chercher dans les recettes nationales, hein, parce que quand même, d'abord, le communisme ne paie pas de pauvres, c'était quand même la banlieue de l'Occident. Mais entre... Si vous voulez, le régime de la Suède ou de la Prusse au XVIIIe siècle et le régime de la Russie au XIXe siècle, il n'y a pas tellement de différence. Sinon, quand même, disons, l'absence de ville, une paysannerie très archaïque, etc. Mais enfin, au point de vue des institutions, la Prusse de Frédéric Guillaume Ier et la Russie d'Alexandre II, se comparent très bien, avec peut-être un petit avantage au profit de la Russie d'Alexandre II. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Russie préparait sa révolution du passage de l'ancien régime au nouveau régime, celui que la France, que l'Angleterre avait fait au XVIIe siècle, que la France avait fait au XVIIIe, que l'Allemagne, l'Autriche, etc., avait fait au XIXe siècle. La Russie préparait ce même passage qui était inévitable. Au fond, tout le monde l'attendait, même y compris les éléments éclairés de l'administration russe. Seulement, à la faveur de la guerre et à la faveur de la secte léniniste, ben, la révolution n'a pas pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'elle a eu lieu en février 17, elle a eu lieu, l'ancien régime est tombé. Seulement, au lieu que, comme ailleurs, ça se prend la société civile qui recueille le pouvoir, qui développe des structures représentatives, hein, pour exercer le pouvoir et passer donc au nouveau régime, eh bien, vous avez eu le putsch d'octobre qui a mis le pouvoir entre les mains de d'une secte. Voilà. Et c'est cette secte utopique qui a duré grâce à l'idéologie pendant 70 ans. Alors, si la Russie a besoin d'un pouvoir fort, écoutez, c'est un pays qui est trop vaste pour sa population, pour son niveau. Ça marchait tant qu'on envoyait en Sibérie des paysans qui labouraient. Mais maintenant, comment mettre en valeur un pays où ils n'y arrivent pas, les pauvres Russes? Ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas. Vous savez que entre le lac Baïkal et le Pacifique, sur un territoire qui est grand comme à peu près les 2/3 des États-Unis, il y a à peu près 5 millions d'hommes. Hein? Et encore, ils ne sont pas tous russes, loin de là. Hein? Donc, vous voyez l'incapacité. Moi, j'ai survolé en revenant de Corée, j'ai survolé la Sibérie orientale, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas une route, il n'y a pas une maison, sur des heures et des heures et des heures. Hein? C'est effrayant, il n'y a rien.
Les Russes eux-mêmes ne savent pas qu'on peut aller en voiture de Moscou jusqu'en Sibérie.
Oh oui, ça leur a des chances de tomber en panne. et de se retrouver et de retrouver le châssis par terre assez vite, oui.
Est-ce qu'il nous reste 5 petites minutes ?
Ce que je déteste, c'est les mensonges que le peuple russe répand sur lui-même et surtout ceux qui les croient. ça me paraît, j'ai eu en Russie de très chaudes amitiés, en France et avec les Russes et en Russie, hein. Et je tenais par exemple Madame Ilovaïskaya, avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui était vraiment une femme de très grande valeur et qui faisait vraiment honneur à la Russie. Ou cette Angelina Vassilievna, de qui j'étais très, 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 tout à fait l'intime amie, qui faisait honneur à son pays, comme ce jeune Yuri Chebaldine aussi faisait honneur à son pays à sa façon. Mais il ne me racontait pas des histoires sur la Russie, il ne les croyait pas. Mais je n'aime pas les Russes qui racontent leurs histoires, qui racontent des histoires sur eux par un sentiment de complexe, à la fois de supériorité et d'infériorité. Et je suis encore plus en colère contre ceux qui les croient.
Et pour revenir à la question de la recherche, juste très vite, Gabriel et Vanessa, est-ce qu'il reste quelque chose d'après vous à dire sur la Russie ou Kiev ?
Bien sûr.
Il reste toujours des choses à dire, il y a toujours encore plein de recherches à faire, sur l'URSS, pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Il y a encore plein de domaines, plein de sphères qui n'ont pas été abordées, il me semble. Enfin, Vanessa, qu'est-ce que tu en penses ?
C'est évident.
Oui, et puis bon, comme ça a été dit avec ironie, c'est la civilisation du rapport. On a des archives assez pléthoriques, énormes. Il y a évidemment des choses à mettre de côté, mais il y a aussi effectivement des informations plus précises, voire qu'on ignorait sur aussi les rapports de force, par exemple dans les appareils, entre les institutions, les niveaux de pouvoir, comment la société faisait appel à différentes institutions contre d'autres. Enfin, c'est ce genre de choses aussi qui sont intéressantes pour avoir une image un peu plus dynamique, peut-être, de la société du système soviétique.
Et les spécificités régionales sur lesquelles vous travaillez.
Oui aussi, alors là c'est un travail de longue haleine puisqu'il faut que un certain nombre de chercheurs s'intéressent à des régions pour ensuite mettre les résultats ensemble et pouvoir voir s'il y a vraiment des différences significatives en raison de facteurs locaux, historiques.
Merci Vanessa, merci Gabriel, merci Baptiste, merci Monsieur Besançon pour votre intervention dans cette émission. À la semaine prochaine pour un autre Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.